C'est certain que ces technies qui nous inventent le monde de demain, hein, parce qu'en fait, ils produisent des services, mais ils produisent aussi du récit et ils produisent des croyances entre des valeurs, etc. Donc, effectivement, je me demandais si cette question de la culture de rupture, en fait, elle n'était pas là. Parce qu'on parle d'innovation de rupture, on pourrait parler de création de rupture, ou en rupture, ou en fait, civilisationnelle. Enfin, ces questions-là, je crois qu'elles étaient implicites aux propos que tu tenais, et quand tu parles de duplication, c'est vrai que ça nous interroge, parce que c'est comme s'il s'agissait d'un modèle réplicable, tu as dit le mot, et mondial, alors que si je me penche vers mon deuxième intervenant, hein, qui lui a une posture globaliste aussi, puisque tu interviens dans de très nombreux pays, tu vas demain à Hong Kong et tu reviens de Malte, donc en fait tu travailles dans tout ce qui est finalement l'architecture, le passé, comment articuler le numérique à de l'existant, à du sens, à de l'histoire. Donc, est-ce que, justement, je pense que votre positionnement est très, très intéressant, parce que l'un observe et projette, et un réalise et crée une alternative. Alors, voilà, donc je vais te donner immédiatement la parole, Miguel, et puis tu vas nous montrer les travaux que tu fais, et tu nous diras si, effectivement, on est dans une création de rupture, ou est-ce que cette opposition techniste bobo, elle existe, ou il y a des hybrides dont tu fais partie qui est créé finalement une alternative créative qui nous donne à penser au monde, en fait.
Oui, bah, écoute, oui, je vais essayer de, dans la mesure de mon possible, de montrer effectivement comment certaines de mes créations peuvent à la fois utiliser ces outils technologiques, mais aussi s'immiscer en quelque sorte dans des lieux patrimoniaux et dans d'autres lieux où on s'y attend pas. Donc j'ai préparé pour vous un certain nombre de quelques-unes des exemples. Hein. Donc, avant de vous montrer de manière très concrète certaines de ces créations dans des lieux, dans différents espaces, en fait, parmi les choses qui m'ont, les thématiques qui m'ont intéressé, c'est j'ai travaillé beaucoup sur la nature et l'artifice. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup d'ingénieurs, d'agronomes, etc., étudient comment on peut étudier la croissance des plantes, font de la simulation de croissance de plantes dans des lieux arides ou pas arides. Et au fond, à la fin des années 90, l'évolution aussi des techniques et la capacité des calculs des ordinateurs m'a permis peu à peu à imaginer des œuvres qui soient des œuvres qui puissent, des logiciels en quelque sorte, qui puissent développer des œuvres génératives. Alors, je vais mieux expliquer ce que c'est que la générativité, mais pour ça, en fait, au départ, donc, j'ai imaginé l'idée de graines virtuelles, donc qui sont calquées sur des formes de croissance, comme on peut les voir, mais ce sont des plantes qui n'existent pas. Et donc, du coup, j'ai créé un herbier au départ, et donc, voilà quelques-uns des exemples de cet herbier. Donc, chacune de ces fleurs imaginaires peuvent pousser, se développer, et ensuite quand elles se fanent ou quand elles décèdent, en quelque sorte elles peuvent créer des variations à partir de cette image. Alors, donc cet herbier, il est constitué du à peu près 18 graines virtuelles, et ces graines virtuelles, donc on va les voir, donc elles changent en couleur, certaines peuvent pousser très vite, d'autres beaucoup plus lentement, et à partir de là, donc voilà, ça c'est une des graines virtuelles qui font partie de ce que j'ai appelé les surnatures, et donc les surnatures donc poussent, se développent, et donc elles ont comme ça cette idée aussi de, elles peuvent interagir avec le public, et elles font l'objet de ces graines virtuelles peuvent être présentées sur des écrans, et donc du coup aujourd'hui il y a des amateurs qui acquièrent certaines de ces graines virtuelles. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que au-delà de ces graines virtuelles, en fait on peut, à partir de, comme un paysagiste, à partir de ces graines virtuelles, on peut créer des jardins virtuels, et ces jardins virtuels, de la même manière que ces plantes poussent individuellement, elles peuvent constituer à la fois un jardin qui va se transformer dans le rapport au temps. Donc elle joue à la fois de ce jeu de la transparence, Et donc, elles vont pouvoir se développer dans des espaces plus grands. Donc là, c'était un centre d'art à Daejeon, qui est un musée dans le, en Corée du Sud. Et donc, on a, donc c'est une photo. Et là, on a une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu cette idée de ce jardin, comment en fait il se déploie, et à la fois comment au fond on peut interagir avec ce jardin, c'est-à-dire selon le déplacement du corps, on devient un peu les disciples d'Éole, et au fond ces jardins vont se transformer au fur et à mesure des jours, c'est-à-dire que la personne qui revient le lendemain ou le surlendemain ne voit pas exactement ce jardin. Donc il y a une partie qui est maîtrisable, et il y a une partie aléatoire. Et cette aléatoire va créer à l'infini des variations. Donc on n'est plus dans une vidéo qui est en boucle, mais on est dans une œuvre donc, qui est à la fois générative et interactive. Donc ensuite, ces jardins, ben, comme un paysagiste, en fonction de ces graines virtuelles, on peut composer des jardins très différents en termes de couleurs et d'échelle. Et donc du coup, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de sortir du rapport de l'écran, pour se développer à l'échelle d'une architecture. Donc là, bon, c'est un projet qui n'était pas pérenne, mais qui était plutôt de l'ordre de l'événement. Et en fait, donc cette façade qui était sur les Champs-Élysées, en fait, se recouvre d'une peau de pixels et devient à la fois un jardin qui va évoluer sur la semaine où il a été présenté sur les Champs-Élysées. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est des surnatures. Alors ensuite, les surnatures ont évolué parce qu'à un moment donné, on ne me demandait que ce type de création. Et du coup, j'ai pensé à imaginer un autre logiciel. Donc, ces logiciels sont faits avec des informaticiens, avec des codeurs dont on a parlé, mais qui essaient d'écrire du code de bien écrit. Qui parfois, donc, ces logiciels demandent entre 1 et 2 ans de mise en œuvre. Et donc, on a créé un deuxième logiciel un peu inspiré des surnatures qui s'appelle les Fractal Flowers. Et donc, l'intérêt des Fractal Flowers, c'est que, outre le fait de pousser comme les surnatures, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, chacune de ces graines des fractal flowers peut, quand elle meurt, elle peut muter entre une autre forme. Donc on peut créer des formes d'hybridation et du coup il m'arrive de découvrir de nouvelles espèces. Donc de la même manière que les surnatures, donc il va y avoir donc ça c'est on voit un peu le principe des projections, etc. On va avoir donc un herbier avec avec chacune de ces graines ont des noms, donc en hommage à certains artistes ou poètes comme Baudelaire. Donc c'est tout un peu des fleurs du mal, mais ça peut être la Lilius arithmeticus en hommage aussi à des mathématiciens. Et donc à partir de là, j'ai créé l'herbarius. L'herbarius c'est le premier livre au XVIe siècle où on crée les botanistes commençaient à répertorier les plantes, et du coup j'ai créé un livre qui est un vrai livre, et ce livre un vrai livre physique, c'est un livre blanc en quelque sorte, et il y a 12 graines virtuelles, et il y a des textes de l'écrivain Jean-Pierre Balbe qui a créé un générateur d'écriture, donc ils vont expliquer les capacités hallucinogènes de ces plantes qui n'existent pas, si vous voulez, à savoir que donc ce générateur c'est un logiciel aussi avec des structures de phrases matricielles, avec des dictionnaires. Et donc l'ordinateur va puiser dans ces dictionnaires et va composer des textes qui vont expliquer où on peut trouver ces plantes, bien sûr dans des lieux un peu impossibles. Et elles vont vous donner elles vont vous apporter toutes sortes elles vont vous soigner de toutes sortes de maladies possibles, mais aussi, donc c'est à la fois un texte qui est pas complètement idiot, c'est un texte assez surréaliste, mais qui est à partir de cette idée de la générativité, mais dans l'écriture. Alors, ensuite, de la même manière que les surnatures, donc les Fractal Flowers font l'objet de jardins, et donc, du coup, il y a eu des installations à des échelles un petit peu plus grandes que celles qui étaient à Daejeon, et donc, il y a une petite vidéo qui montre un peu comment ces jardins peuvent évoluer, se transformer, et là aussi on peut interagir avec ces jardins. Donc les plantes, ces fractal flowers, quand elles meurent deviennent comme des architectures, et donc comme je vous l'expliquais, donc après il y a des nouvelles variations de ces plantes qui existent. Donc Il y a parfois aussi, je dirais que dans le logiciel, ce qui est aussi assez étonnant, c'est qu'il y a une partie qui nous échappe et qui nous donne de nouvelles potentialités, de nouveaux types de jardins. Voilà. Alors, ces jardins, ils sont aussi configurés dans lieux assez atypiques aussi. Par exemple, là, j'ai rencontré le... Ça va dans le timing ? Ferran Adria est un grand chef de la cuisine moléculaire et il a décidé de créer un lieu à Ibiza qui s'appelle Hertz, qui est un lieu sur la multisensorialité, à la fois à travers le goût pour bien sûr tout le rapport au gustatif puisqu'il expérimente beaucoup dans ce domaine-là, mais aussi il a créé un lieu avec en demandant à Patricia Orchiola de créer un espace spécifique et à intervenir aussi avec des artistes et des musiciens qui jouent tous les soirs. Donc là, ils m'ont demandé d'imaginer une version des Fractal Flowers. Donc on a une petite vision un peu de ce lieu, qui est un lieu par excellence de fête. C'est Ibiza, c'est normal. Et donc voilà, ça c'est un espace qui a été inauguré l'année dernière. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que vraiment ces œuvres aussi se développent dans un rapport à l'architecture. Donc il y a différents artistes qui sont intervenus. Voilà, donc il y a des terrasses avec toutes sortes d'expérimentations sur la cuisine aussi internationale, mais revisitées par Ferran Adria. Je vais passer un petit peu vite parce que c'est voilà. Donc c'est un lieu de performance et aussi un lieu où le digital s'exprime comme un moyen d'expression à part entière. C'est ça aussi qui est intéressant. Et donc voilà, on voit ce jardin se développer dans ce lieu. Donc il n'est pas toute la soirée, il est pendant 2 heures. Voilà, mais tous les soirs, il se renouvelle. Donc c'est ça aussi qui est intéressant par rapport à cette idée des Fractal Flowers. Alors enfin, les Fractal Flowers ont fait l'objet aussi d'installations dans des serres, parce qu'au fond la serre c'est un espace artificiel, c'est une architecture de lumière, c'est une architecture de la performance au 19e siècle, et donc les gens ne rentrent pas dans la serre mais au fond peuvent tourner autour de la serre, et donc on a aussi des installations de cette nature qui étaient présentées au musée de la chasse et de la nature, qui est un musée que, si vous ne connaissez pas, je vous invite à y aller, car c'est un véritable cabinet de curiosité et il faut être curieux. Il y a beaucoup d'installations assez étonnantes. Donc du coup, j'avais été invité dans le cadre de ce musée. Et ensuite, Fractal Flower in vitro a fait l'objet aussi d'une installation à la Biennale d'Istanbul, et donc c'est une serre qui a voyagé à travers différents lieux. Enfin, ce qui est intéressant dans les Fractal Flowers, c'est que on pense que le virtuel, c'est que du virtuel, et aujourd'hui, avec les fameuses imprimantes 3D dont on parle beaucoup, on peut matérialiser le virtuel, et du coup, ça ouvre tout un champ des possibles, pour moi en tout cas, de montrer que comment en fait ces fleurs que vous avez vues imaginaires, on peut les arrêter dans leur croissance, et parce qu'en fait elles sont, vous les voyez en 2D sur un écran, mais en fait elles sont calculées en 3D par l'ordinateur. Et donc, du coup, on peut sortir des fichiers 3D, et donc bien sûr elles ne sont plus dans une même dynamique que les jardins que vous avez vus, mais du coup elles font l'objet de pièces qui ont une vraie physicalité, si vous voulez. Donc ça, c'est quelques-unes des exemples possibles. Je passe assez vite, mais c'est aussi de montrer finalement comment on peut aller du virtuel au réel par le biais de ces imprimantes 3D. Ensuite, ces installations, elles se développent. Donc ça, c'est un autre travail qui s'appelle Nuage Fractal. Et Nuage Fractal, donc quand les gens interviennent de plus en plus, en fait, ils créent une œuvre qui se complexifie avec l'interactivité. Donc ça, c'est une œuvre qui a été en 2000 et qui était restée un peu en quelque sorte qui a été présentée dans une galerie qui s'appelle la galerie Xipas. Et cette œuvre a ensuite été resté pendant un peu plus de 13 ans comme ça dans les cartons, enfin c'est ou dans les disques durs plus exactement. Et du coup, j'ai montré ça à un amateur d'art en Belgique qui a été fasciné par cette œuvre. Et du coup, il m'a demandé d'imaginer comment on pouvait créer une installation dans son espace. La seule difficulté, c'est que son espace, est, comme tout amateur, il y a beaucoup d'œuvres, et donc il n'y avait plus tellement d'espace, si ce n'est que le plafond était entièrement blanc. Et du coup, j'ai proposé une installation qui se développe sur 8 panneaux. Donc c'est une œuvre qui n'est visible que le soir. Et voilà, donc c'est une autre... voilà, donc j'ai 5 minutes, donc je vous montre assez vite. Donc ça, c'est l'espace, en quelque sorte. Et j'avance un tout petit peu. Voilà, donc ça, c'est le lieu. Et donc ça a fait l'objet d'une soirée, bien sûr, en quelque sorte, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup l'espace est entièrement envahi par ce nuage fractal. Donc ça, c'est une des possibilités. Je vous montre quelques autres travaux qui font lieu aussi d'installations à l'échelle du paysage. Donc ça, ça s'appelle Pixel Snow, et donc c'est une installation qui revisite l'univers des flocons de neige et donc qui a été projeté directement sur la neige. Donc ensuite, les gens pouvaient skier sur la neige et sur ces installations. Donc là aussi, un rapport au Land Art. Donc est-ce que c'est recréé, mais ou est-ce que c'est finalement une continuation de certains artistes qui investissent des espaces de grande échelle? Ça, c'est une autre installation aussi, parce qu'au fond, ce qui m'intéresse aussi à partir du numérique, c'est comment on peut développer des œuvres à l'échelle de la notion d'immersion. Et donc, dans les carrières des Baux-de-Provence, donc j'ai fait une installation sur 7500 m2 et où on est donc sur la symbolique du monde digital, ça s'appelle la vague des pixels. Et donc là, on est dans une installation où il y a cette notion d'immersion avec un compositeur qui s'appelle Jacopo Baboni qui crée des musiques génératives. Donc c'est des musiques qui elles-mêmes se remixent, se redéploient et du coup aussi créent des variations. Donc là aussi, je crois que ce qui est très intéressant dans ce rapport au digital, c'est comment on peut créer des passerelles entre différents types d'espaces, lieux et d'autres types d'expressions comme l'écriture, je vais parler, ou la musique. Donc ça, c'était aussi un lieu de déambulation, à la fois dans la notion d'immersion. Enfin, je vous montre deux projets assez intéressants qui revisitent, alors là, parce que les carrières, c'est un lieu atypique, mais là, c'est une ancienne cathédrale, pardon, qui est à l'abandon des années 30, qui est à Casablanca. Et là, l'idée, c'était de faire prendre conscience que les Kazaouis avaient un patrimoine, qu'il fallait le préserver. Et du coup, les architectes de la ville qui s'intéresse aux années 30 m'ont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un projet? Du coup, j'ai proposé cette installation dans cet espace de la cathédrale. Et donc, c'est comme un immense tapis, si vous voulez. Je fais ça et je montre juste après. Voilà. Donc là, un autre lieu intéressant de par comment... Donc là, c'était un dialogue aussi entre le vitrail et l'espace. Voilà, et donc quand les gens marchaient sur ce sol, en fait, ils pouvaient interagir avec ces univers, donc là, qui s'appellent les tapis magiques. Voilà, donc ça c'est une petite vision de ce projet à Casablanca. Et un autre projet aussi dans un lieu complètement atypique qui est le Castel del Monte, qui est un château assez extraordinaire qui est dans les Pouilles. Et ce château, il a la particularité, il a été construit au XIIIe siècle par Frédéric II, et c'est Il est basé sur l'octogone. Il y a une cour octogonale et avec 8 tours qui sont tout autour de chacun des angles de l'octogone. Et donc là aussi, ça fait l'objet de comme un kaléidoscope géant. Voilà quelques autres installations. Ça, c'est au Moyen-Orient, donc une installation sur 1000 mètres carrés qui revisite les dessins islamiques qui, au fond, sont des dessins très mathématiques. Et je termine par cette installation qui a été un peu... Alors là, qui est un projet de commande dans un lieu, alors là aussi, pour le coup, patrimonial, qui est la King College Chapel de Cambridge. Et l'idée, donc cette commande, en voyant le projet des carrières des Baux-de-Provence, m'ont demandé d'imaginer, avec Nicolas Godelet, qui travaille avec moi, de pouvoir faire une œuvre où on est complètement dans l'immersion de l'excellence des recherches que développe l'Université de Cambridge. Donc c'était autour de ce qu'a développé aussi Stephen Hawking, autour des trous noirs, des constellations, etc., et de tout ce qu'il développe autour des neurosciences, neurobiologie, etc. Donc c'est une installation, je termine juste par ça, voilà, qui vous donne un peu une idée de comment le digital peut aussi s'immiscer dans ces lieux on allume et on peut transformer l'espace, et on l'éteint, il n'y a plus rien. Voilà. Je passe un peu vite, voilà, donc ça c'est cet espace-là. C'était une commande vraiment pour donc chacun des professeurs ont présenté un peu les états de recherche, et en même temps j'ai illustré dans ce rapport, dans ce lieu, voilà. Je passe un peu vite, bon, il y a un peu tous les, voilà, c'est un peu... Bon, je crois que c'est bien. C'est bien. Ouais,
oui. Bon, ben, bravo et merci. Pardon. Merci à Miguel. Donc là, nous allons avoir quelques minutes pour des questions. Alors, j'ai le sentiment, je vais en poser une toute petite première. Ouais. Miguel, tu as très peu parlé finalement du rôle du public qui est majeur, ouais, quand même dans tes installations, puisque c'est l'interaction qui crée, en partie en tout cas. Alors, dans quelle mesure tu accordes à ce public une place dans l'œuvre numérique, comme tu as, si tu peux nous dire aussi quelle place tu accordes au code, quelle place tu accordes aux autres disciplines qui sont partenaires de cette mise en œuvre?
Bon, je dirais que l'interactivité, ça montre un autre aspect de l'œuvre. Mais c'est, pour moi, les personnes qui interagissent avec l'œuvre modifient, si vous voulez, la trajectoire de l'œuvre, mais finalement, ils ne sont pas ils sont des acteurs importants, mais en soi programmés. Donc après, ils viennent comme des personnes qui viennent perturber une forme de scénario qui se développe. Et donc, ils envoient une autre... S'ils n'interagissent pas, ils ne voient pas d'autres aspects de la potentialité de cette œuvre. Mais pour moi, ils ne font pas l'œuvre, en fait. C'est-à-dire qu'ils participent à l'œuvre et ils ont... ils donnent une ouverture, si vous voulez, qu'on n'a pas forcément si on n'interagit pas. Alors, quant au code, bon, quelle était la question sur le code ?
La question, c'était, est-ce que finalement, c'est le code qui fait l'œuvre, en fait ? C'est-à-dire cette prégnance de l'algorithmisation, et comment est-ce que, justement, le code crée l'émotion, en fait, dans ce que tu mets en œuvre ?
Ben, moi, l'idée du... Bon, les codes, là, je travaille avec différents informaticiens pour coder l'ensemble de ces projets. Et c'est en développant ces logiciels que... et aussi en les mettant dans l'espace. Parce que je pense aussi que l'œuvre transposée dans des espaces multiples, comme vous avez pu voir aussi bien dans des lieux comme les carrières ou dans des espaces plus patrimoniaux comme la King College Chapel, sont des lieux qui à la fois... transforme le rapport à l'architecture de par le numérique. Donc, pour moi, le code, si vous voulez, c'est un moyen pour créer des logiciels qui eux-mêmes font corps avec l'espace, si vous voulez. Et c'est en ça que alors après il faut bien coder, bien sûr, mais ce que je trouve très passionnant, c'est l'ouverture qu'apportent ces logiciels et qui sont totalement, alors là, impossible de créer avec les autres modes de création que sont la photo, la vidéo ou le cinéma, puisque en fait le cinéma ou la vidéo, ce sont des choses préenregistrées et qui ensuite, on les revoit en boucle. Alors que là, on a des œuvres qui se transforment dans le rapport au temps. Et donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est une création totalement nouvelle dans le champ des arts plastiques, entre autres, ou de la musique, ou de voilà.
Est-ce que vous avez des questions ? Ça fuse.
Oui, moi j'ai une question pour la première intervention, parce que ça m'a vraiment beaucoup... j'ai été très passionné et j'ai trouvé que vous donniez... qu'on avait une mise à distance, enfin moi je l'ai pour moi, qui permettait en fait d'avoir de rentrer dans les différents éléments. Donc je voulais savoir déjà... Quelle distance vous avez vis-à-vis de votre présentation ? Est-ce qu'il s'agit d'une analyse de la situation ? Est-ce que c'est une analyse du réel ? Est-ce que c'est de quoi en fait il s'agit ? Parce qu'il m'a semblé que là on avait vraiment beaucoup d'éléments de réflexion. Donc ça c'était la première partie de la question. On a dit que vous étiez, j'ai cru comprendre, sociologue. Je sais pas si c'est, il y a plusieurs écoles en sociologie, mais moi ça m'a beaucoup intéressé cette manière de prendre les choses. Ça c'est la première partie. Et la deuxième, comme vous avez dit que ça pouvait servir comme modèle à l'Île-de-France ou non, je voulais savoir si par exemple votre présentation, vous avez pu la faire devant les gens qui vont peut-être nous faire un modèle en Île-de-France de...
Oui, merci beaucoup pour ce commentaire très élogieux. Alors, la distance à l'objet, qui est une question importante, qui est une vieille question en sciences sociales et en sociologie particulièrement, là, en l'occurrence, j'ai un peu... je fais ça dans le cadre d'une invitation à l'université de Stanford. J'essaie de construire un travail assez, assez dense, qui passe vraiment par la base, hein, c'est-à-dire l'observation, l'enquête, etc. Et en l'occurrence, d'un point de vue très très individuel et quasiment psychologique, je suis passé par à peu près les mêmes étapes que celles que les entrepreneurs ou les programmateurs vivent. En l'occurrence, vous avez 3-4 grandes étapes. Quand vous arrivez, vous avez un moment d'émerveillement. Ensuite, vous avez un moment de dépression, parce que après le moment d'émerveillement, vous apercevez que vous restez en dehors du jeu, parce que vous comprenez pas comment ça se passe, parce que vous n'avez pas les codes, et des codes qui peuvent être à la fois très grands ou très petits. C'est savoir comment on dit bonjour, c'est savoir ce qu'est une interaction, c'est savoir ce qu'est un rendez-vous aux États-Unis, dans la vallée, à San Francisco. Un rendez-vous, c'est pas comme en France. Ça dure 15 minutes et on fait un deal. C'est-à-dire qu'on se donne des informations, vous donnez une information et vous attendez en retour des informations. C'est le potlatch traditionnel anthropologique. La question par rapport à la famille, effectivement, il y a des lignages en sociologie. Moi, j'essaye d'avoir un lignage ouvert, croisé, complexe, arborescent, un petit peu pour rester dans le domaine de la floraison. En l'occurrence, j'ai une proximité assez forte à un sociologue san-franciscain qui est Howard Baker, qui a fait un travail pionnier sur les univers artistiques, les mondes de l'art. Et en l'occurrence, on pourrait faire, hein, on pourrait appliquer ce type d'analyse en partant à partir de l'artiste, en l'occurrence le programmateur, pour essayer de dérouler, de comprendre la globalité de cet univers qu'est l'univers de la tech à San Francisco et dans la Silicon Valley. Sur la troisième question, qui est celle de l'utilisation éventuellement des travaux en sciences sociales, hein, est-ce que le sociologue doit être un conseiller du prince, qui est une question délicate, qui est souvent un rapport un peu tragique, hein, un petit peu défait, puisqu'on est toujours voué dans ce cadre-là à avoir des erreurs d'interprétation. Et c'est important d'essayer de conserver la spécificité de son rôle. Avec cette dimension que j'ajouterais, c'est que les sciences sociales, aujourd'hui, par rapport à cet univers, se retrouvent eux aussi, elles aussi, dans un rapport de compétition. Pour le dire autrement, ce sont des univers autonomisés intellectuellement. Ce sont des univers qui ont leurs intellectuels, ce qu'on appelle des influenceurs. les gens qui ont des blogs et qui se positionnent par rapport à des problématiques spécifiques de la tech, des problématiques techniques, mais aussi des problématiques sociales, des problématiques politiques, et qui ont une véritable vision du monde. Et pour le dire autrement et un peu brutalement, voire sous une forme de provocation, ce sont des gens qui n'ont pas besoin de nous. Pas du tout.
Voilà. Notre question courte et réponse courte.
J'ai été très intéressé par les deux communications. J'ai une question complémentaire pour Olivier Alexandre. Olivier, vous avez porté une attention particulière, et on n'est pas surpris, aux informaticiens, aux codeurs, aux avocats, au personnel qualifié, on a envie de dire les Stanfordiens. Également, en n'oubliant pas les Kawasaki, c'est-à-dire ceux qui vendent des pelles et des pioches. La question que je me pose, elle l'a été déjà depuis bien des années par des économistes qui considéraient que un des fondements de la grande réussite de la Californie, c'est une immigration très importante venue du Sud, de personnel peu qualifié, très peu payé, très précarisé, et que finalement c'est cette tension entre une surrémunération et une sous-rémunération qui serait un des moteurs du système. Deuxièmement, quand vous avez parlé des rockstars, c'est-à-dire au fond ces chefs d'entreprise rockstars, j'aurais voulu être un artiste et vivre, ça fait penser aussi sans doute à Pierre-Michel Menger dans Portrait de l'artiste en travailleur, finalement cette capacité à créer des effets d'enchantement très forts, et je vous cite, et je voulais savoir finalement comment vous arrivez à les saisir, à les appréhender, et jusqu'où vont-ils, c'est-à-dire notamment le partage dans un espace public de cet enchantement, ou au contraire, ce que vous avez évoqué aussi, c'est des tensions extrêmement vives qui peuvent y exister. Quand vous parlez des expulsions, c'est un des éléments, disons, d'une violence sociale qui peut être très grande. Donc c'était un peu, comment vous avez pu appréhender cette tension entre le réenchantement du monde avec une dimension médiatique et hypermédiatique pour tenter de généraliser la croyance, et puis quelque chose qui est de l'ordre de la dépression que vous avez évoqué, c'est-à-dire tout à fait l'inverse.
Oui, merci beaucoup Laurent pour ces retours et ces questions. Effectivement, vous avez tout à fait raison de dire que la Californie, particulièrement le nord de la Californie, fonctionne comme un nexus entre le nord et le sud, et peut-être plus encore entre l'est et l'ouest, en termes de mouvement de population, mais aussi en termes de philosophie. La Bay Area, c'est ce point qui a réussi une synthèse entre l'Occident et l'Orient. En termes d'art, en termes de spiritualité, la majorité des entrepreneurs font de la méditation, par exemple, font du yoga aussi, c'est la pratique sportive la plus développée dans la ville de San Francisco. Et la moitié des entrepreneurs dans la Silicon Valley sont étrangers, non seulement à la Californie, mais aussi aux États-Unis. C'est une tour de Babel, San Francisco, mais qui a un langage commun. En l'occurrence, ce langage commun, c'est celui de l'informatique, qui est aussi des langages. La question que vous posez par rapport aux inégalités, elle se pose aujourd'hui de façon un peu différente par rapport à l'époque de la domination du hardware, parce que dans le software, vous avez assez peu besoin de petites mains. Vous avez surtout besoin d'une population très bien dotée en compétences et très au fait capable de s'adapter aux évolutions technologiques. En l'occurrence, ce sont des univers qui sont régis par ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est-à-dire que tous les 18 mois, vous devez avoir une nouvelle innovation sur le marché lancée. Tous les 18 mois, Apple doit lancer un nouveau produit, sous peine d'être inexorablement relégué dans la compétition du commerce. En revanche, ce qui se passe est ce qui se présente avec beaucoup d'acuité dans la ville de San Francisco, c'est le décalage qu'il existe entre ces populations jeunes, extrêmement qualifiées, tournées vers le monde, mais sans vraiment le connaître, et les populations du Sud, ou issues de migration, et qui remplissent les tâches de service au sein de la ville. Les conducteurs de bus, les gens qui travaillent dans les restaurants, jusqu'aux enseignants aujourd'hui qui sont victimes pour le coup d'un déclassement extrêmement fort au sein de la ville de San Francisco, et voire les journalistes qui aujourd'hui se font expulser à leur tour. Ça ne concerne pas seulement les populations les plus vulnérables comme on pourrait le penser. Comment saisir cette nouvelle guerre des dieux, pour parler à la manière de Weber, en essayant de croiser l'épistémologie a priori qu'on pourrait projeter sur cet univers, c'est-à-dire essayer d'observer la data, comment elle se produit, de façon, à la manière des artistes, hein, observer quel est le travail de la production de la data dans tous ses détails et dans tous ses plis, et aussi essayer de coder les représentations. En l'occurrence, à San Francisco, je fais tout un travail autour des cabarets, des stand-up, des clubs de stand-up, pour essayer de coder les représentations qu'ils ont de la ville. Qu'est-ce qu'ils disent sur la ville ? Et en l'occurrence, vous avez des conflits ontologiques, aujourd'hui, sur ce qu'est San Francisco, avec des techies qui considèrent que San Francisco, c'est un laboratoire d'innovation, et des artistes qui considèrent que San Francisco, c'est un temple d'émancipation artistique, existentielle, et que ça doit le rester ainsi.
Donc je pense qu'on a épuisé notre temps de parole, donc je vois qu'il y a d'autres questions, mais je pense que si les organisateurs ne nous donnent pas davantage de temps, on va remercier nos deux intervenants, les féliciter, et puis merci à vous tous. Merci.